It's only a demo, folks.
Salut, c'est Champ Libre. Salut à tous, Champ Libre numéro 632. Avec Laurent à la technique, le 632e Champ Libre. Eh bien, c'est un champ libre, comment on dit, mensuel, c'est-à-dire avec des invités, les invités habituels, bien sûr. Damien, qui nous parlera tout à l'heure d'un album métallique.
Bonsoir.
Salut. Et Joe, qui, lui, nous parlera d'images qui bougent sur des rondelles aussi, qu'on appelle des DVD ou des Blu-ray.
Bonsoir, absolument.
Et je voudrais commencer cette émission, les copains, en vous entraînant avec moi, en faisant un petit flashback dans ma, on va dire, mon adolescence, quelque part du côté de mon adolescence, je voudrais vous parler de choses que j'ai vécues, moi, lors de l'année scolaire 1968. Alors non, je ne vais pas vous parler des barricades. Je voulais simplement vous dire qu'en 68, mes parents avaient décidé de donner à leur fils une bonne éducation religieuse et je me suis retrouvé dans un pensionnat. Et en particulier, ça c'était effrayant, dans un dortoir de 80-90 places environ. Et le premier matin, un surveillant, on appelait ça un pion à l'époque, barbu, étudiant en médecine, mais également guitariste et chanteur, façon Georges Brassens. Donc le pion, le surveillant... arrive discrètement de sa petite chambre, pose une chaise au milieu du dortoir. Sur la chaise, il pose un électrophone, un Tepaz, petit truc de l'époque, et on entend le diamant qui gratte, et puis une guitare et une voix sombre. Ce sont les premières notes d'un album de Leonard Cohen qui est sorti 6 mois plus tôt. Cet album s'intitule « Songs from... » Leonard Cohen et les chansons Suzanne, So Long Marianne, Sisters of Mercy. Voilà. Donc je me souviendrai toujours de cette voix, de ce bonhomme, de ce pion qui m'a fait découvrir Leonard Cohen. Alors, vachement gai, hein, ça collait hyper bien avec l'ambiance du dortoir lorsqu'on est gamin et enfermé pour la semaine. Voilà. Leonard Cohen que j'ai suivi quelque temps ensuite en lisant ses bouquins, Les Perdants Magnifiques, Les Favorite Games, des bouquins d'ailleurs qui n'étaient plus édités jusqu'à récemment. Et puis, je me souviens, 1977, le grand retour de Leonard Cohen, parce qu'il était vieux hein, lorsqu'il a commencé en 67, il avait 32 ans. Le grand retour de Leonard Cohen, un album produit par Phil Spector, c'était pas rien. L'album s'intitule « The Death » of a Ladies Man, petit bijou là aussi, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter ce qu'il a sorti entre les deux. Et puis, je me souviens également mon arrivée dans la région, ou un petit peu plus tôt, 1988, la redécouverte de Leonard Cohen par les rock, par le public rock branché d'aujourd'hui, hein, avec l'album « I'm Your Man ». Toujours Leonard Cohen. Depuis, Leonard Cohen ne m'a jamais quitté. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, dans Champ Libre, je vous présentais son dernier album, You Want It Darker. Je vous disais qu'il était encore plus sombre que les autres. Je vous disais également que Leonard Cohen, dans les chansons et dans les interviews qui accompagnaient cet album, nous disait « ça y est, c'est fini, j'ai fait mon temps, Marianne est partie cet été ». Et moi, je peux quitter la table. Ben, on pensait pas qu'il le ferait aussi vite. «
I'm leaving the table. I'm out of the game. I don't know the people in your picture frame. If I ever loved you, oh no, no, it's a crying shame. If I ever loved you, if I knew your name, you don't need a lawyer. I'm not making a claim. You don't need to surrender. I'm not taking aim. I don't need a lover, no, no, no. The wretched beast is tame. I don't need a lover. So blow out the flame. There's nobody missing. There is no reward. Little by little, we're cutting the cord. We're spending the treasure. Oh, no, no, that love cannot afford. I know you can feel it. The sweetness restored.
Leonard Cohen, le dernier album s'appelle Wanted Darker, le titre que l'on vient d'entendre, Leaving the Table. Lorsque je dis dernier album, c'était le dernier, dernier. Mais comme on dit, Leonard Cohen est immortel, comme tous les grands écrivains. Mmh. Bob Dylan,
Mais c'est vrai.
Nobel,
Mais c'est vrai.
Cohen est immortel lui aussi. On parle de cinéma de DVD toujours.
Un petit peu de cinéma DVD. Allez, c'est parti. Moi, je vais vous parler un petit peu de la sortie choc quand même DVD de novembre. Hein. Difficile de passer à côté. En l'occurrence, le 10e film de Nicolas Winding Refn, cinéaste danois, donc qui a fait la trilogie Pusher, qui a fait Drive, et donc après avoir sondé des univers quand même bien masculins, hein, les loubars, les mafias et autres, s'intéresse cette fois au monde du mannequinat à travers le personnage de la petite Jessie, donc ado naïve, à la beauté immaculée, débarquant à LA dans le but d'être découverte, de faire défiler. Le début est idyllique, mais entre ses concurrentes, coriaces, jalouses, envieuses, et qui plus est, l'hôtel miteux et glauque dans lequel elle séjourne, l'expérience de la jeune fille va petit à petit tourner au cauchemar. Le film Neon Demon est juste l'événement dans la mesure où, en traitant de cet univers typiquement féminin, Refn aborde un autre type de violence dans son cinéma, en l'occurrence non pas seulement la violence physique, mais une violence sourde, latente, suggérée et insoutenable, où la cruauté est reine, où la beauté est l'instrument du règne, la clé pour continuer à exister au sein d'un microcosme tout en artificialité où demeure le vide. Car il faut bien bouffer l'autre, pour ne pas être bouffé. Ainsi, le film, d'une puissance visuelle inouïe, traduit à merveille ce culte de la fausse splendeur où derrière le gloss, le strass, les paillettes, ce tapis, l'horreur, notamment à travers un basculement sanglant lors des 20 dernières minutes. Je ne vous raconte rien, je vous laisse le soin de le découvrir, vous ne serez pas déçus. Il faut d'ailleurs un peu de temps, c'est le cas de le dire, pour digérer ce film, magistral dans sa forme, mais d'une grande rudesse dans le fond, où l'existence se réduit à des postures, des maquillages, des coiffures, des vêtements. Au-delà, comme le montre le générique de fin de film, c'est lui total. Donc c'est une allégorie à la fois fascinante et repoussante de la recherche de la jeunesse éternelle, de la beauté perpétuelle. Et The Neon Demon est une véritable claque qui, il faut l'avouer, pourra entraîner quand même des appréciations diverses. Pourra osciller quand même entre la vénération et la détestation. Il n'en reste pas moins une impression d'authenticité lugubre, tapis entre les ors et les paillettes. Donc je rapproche quand même ce film de Drive, qui après l'intermède raté, pour ma part, de Only God Forgives, où le film était plat, aussi bien visuellement, narrativement. Quand même, il est proche de Drive dans son approche d'une normalité apparente chez ses personnages, qui dérapent vers l'inéluctable et vers le sombre, très sombre. Donc à découvrir, mais attention, âme sensible, avancée à tâtons. Petite précision quand même de taille, parce que hormis les actrices qui sont exceptionnelles, Ellie Fanning, j'ai oublié l'actrice, la maquilleuse qui est juste fabuleuse, Gina Malone, merci. Keanu Reeves est excellent, alors on le voit pas beaucoup, mais Keanu Reeves est excellent, donc force est de souligner que c'est quand même un exploit, parce que ça fait longtemps, voire quasiment jamais, qu'on l'a vu aussi brillant. Donc voilà, The Neon Demon, qui est la sortie DVD de Nicolas Winding Refn. Petite actualité aussi pour Nicolas Winding Refn, la ressortie de Bleeder, qui est son deuxième film. Alors je ne sais pas si vous avez vu la trilogie Pusher, qui est un véritable bijou à voir. Alors le premier Pusher était son premier film. Il a dû faire le 2 et le 3 pour des questions strictement financières. C'est juste un bijou à voir. Et Bleeder reprend un petit peu les mêmes thématiques, les mêmes acteurs, qui plus est, dans le Copenhague un peu saumâtre des années 90. Alors je n'ai pas eu le bonheur de voir le film, dans la mesure où les copies étaient très restreintes en France, donc très très compliqué de le voir dans la région, mais sans nul doute un titre à découvrir.
Film qui date de 99.
Exactement. Juste après Pusher, en fait, qu'il a fait en 96.
Là aussi, avec beaucoup de sang.
Avec beaucoup de sang, et avec Mads Mikkelsen qui faisait ses débuts, et avec Slatko Buric qui jouait le rôle du fameux Milo dans la trilogie Pusher.
Donc, deux DVD séparément, ou un coffret
Alors, les DVD...
DVD actuels.
Alors, DVD actuels, Neon Demon, c'est un DVD, un seul DVD. La trilogie Pusher se trouve en trilogie classique. Et puis, Bleeder, on l'attend toujours en DVD, parce qu'il est sorti seulement ressorti au cinéma, copie neuve, qui devra apparaître en 2017. Ouais, à peu près. Ouais.
Damien, tu as vu...
Je n'ai pas vu The Bleeder, justement à cause de l'incapacité de le trouver, en fait.
Mais tu as vu
The Neon Demon. Est un film qui m'a vraiment impressionné. Pour moi, un des meilleurs films de 2016, peut-être même de la décennie, disons-le. Puis ce qui m'a frappé, au-delà de la puissance esthétique, puis de l'importance de la symbolique dans le film, c'est aussi la BO, qui est faite par Cliff Martinez.
Cliff Martinez, oui, excellent.
Qui a fait toutes les BO d'ailleurs de Refn jusque-là.
Et de Soderbergh pour les derniers aussi.
Oui, aussi.
Très très bon compositeur, effectivement.
Et c'est cette BO qui colle parfaitement au film, qui retrace vraiment bien le côté anxiogène de ce milieu. Surtout pour la scène qui correspond à la chanson The Demon Dance. Qui est une scène épileptique dans un club qui vraiment sur grand écran est impressionnante, et je pense que sur petit écran elle le sera tout autant,
et qui est une scène métaphorique magistrale en plus, qui conduit à tout le reste du film et qui nous donne des indices gros comme ça.
D'accord, donc Neon Demon,
Neon Demon.
Bleeder.
Bleeder.
Tous. Bientôt, alors, Bleeder, pas tout de suite, mais Neon Demon. Voilà. En DVD.
Donc, je conseille vraiment de voir des bandes annonces, de lire quelques articles quand même, parce que il faut un petit peu de temps quand même pour s'en remettre.
Ouais.
Moi, j'ai mis plusieurs heures, voire un jour en fait.
Il y a différentes techniques pour apprendre à nager. Il y en a une.
Bien sûr.
Consiste à pousser à partir du grand bas. C'est ça la pédagogie. voilà donc pour ce que nous propose Joe ce mois-ci. J'ai cru comprendre que tu voulais nous parler d'autre chose dans cette émission et que pour des raisons de 11 novembre embouteillées, on était obligé d'annuler.
Oui.
Je crois que tu voulais nous parler
des Stones
et CD, DVD, des Rolling Stones.
Du concert d'Havana Moon. Alors pour le coup, j'attendrai de voir le DVD. J'ai écouté le CD pour le coup. Et je te laisse en parler, parce que tu veux en parler.
Alors, le CD, tu peux en parler. Moi, j'ai regardé le film hier soir.
Alors
je ne parlerai pas du jeu de musicien des Stones.
Et puis de l'espagnol de Mick Jagger, qui est catastrophique.
Ça, c'est amusant. disons qu'on a affaire à des Rolling Stones approximatifs, mais ouais. C'est à peu près ce qu'on a depuis... puis bientôt 5 ans.
Ça s'entend dans le CD, hein,
même si en retra... Oui, dans le CD, ouais, le son est un petit peu plat.
Ah, oui,
par contre, ce qui est magnifique, c'est ce qu'on voit. Alors, ce qu'on voit sur la scène, peut-être pas trop, mais ce qu'on voit dans la foule est là, c'est-à-dire un public cubain qui, pour la première fois, a droit à un concert de rock. Et on se rend compte qu'ils connaissent les textes de toutes les chansons par cœur.
Ouais.
Ce qui veut bien dire que ça n'existe pas, les frontières imperméables à la musique, à la culture, etc. En tout cas, ça fait plaisir à voir. Je pense que ça leur fait plus plaisir de voir les Stones que nous aujourd'hui.
Oui. Oui.
Voilà.
Mais cela dit, on sent effectivement dans le CD un public très très enthousiaste et même parfois beaucoup plus enthousiaste que le groupe en fait. C'est-à-dire qu'on entend plus dans le CD, hein, je parle. On entend plus le public. Alors je sais pas si ça vient de la balance des sons qui n'est pas bonne du tout. D'ailleurs, un gros problème de son d'enregistrement hein, concernant le. J'ai pas été du tout satisfait du CD. Donc peut-être que à voir au niveau du DVD, au niveau à voir ce que ça donne.
En tout cas, si vous êtes fan des Rolling Stones, je pense que c'est un disque qu'il vous faut. On parlait de Leonard qui nous a quittés, on parlait de Dylan l'autre fois qui n'est plus tout jeune. Ah, ça fait un petit quelque chose de voir... alors Mick Jagger, on a l'impression qu'il sort d'une salle de gym en permanence, donc moi ça ne me fait pas grand-chose. Par contre, Keith Richards, finalement, c'est celui qui est le plus humain de tous. Et, il a l'air bien s'amuser, même si il a un jeu de guitare chaotique. Voilà, on va dire comme ça. Mais on l'entend jouer. Le son de ce DVD est quand même moins trafiqué que le concert de Scorsese, par exemple.
Oh oui, Shine the Light, qui était pas un ratage, parce que c'est un film de Scorsese, donc je ne serais pas objectif.
Non, mais c'est un film qui est très beau,
l'image est belle, mais on les sent quand même un peu... Oui, complètement.
Tu n'as pas vu, toi ?
Non.
Tu connais les Rolling Stones ?
Tout de même,
un peu comme... Voilà, sinon, la playlist du concert... classique de chez classique.
Jack Flash pour commencer.
Et puis l'apothéose à la fin, Midnight Rambler, Jimmy Shelter, Sympathy for the Devil, et Satisfaction énorme à la fin. Voilà pour les DVD. Le mois prochain, c'est le mois de décembre, c'est le mois du Père Noël.
Oui.
Il faudra absolument qu'on parle de certaines choses lourdes qui commence à arriver dans les
transporter dans les
du Père Noël,
du Papa Noël.
Je pense au big coffret Bob Dylan, au big coffret
Pink Floyd,
au big coffret Manset. On en parlait hors micro, mais on vous tient au courant. Je vous propose d'écouter une nouveauté. C'est un groupe qui s'appelle Warhouse. Alors, Warehouse, c'est le groupe de Martin Devolder, un Irlandais, qui, donc en fait, c'est un concept, hein, c'est pas un groupe. Warehouse, c'est un groupe qui aime les 60s, qui aime Leonard Cohen aussi. Je dis des conneries, il n'est pas irlandais, il est belge. C'est le chanteur du groupe Balthazar, qui aime également Gainsbourg. D'ailleurs, dans l'album, il y a des chœurs qui sonnent vraiment Gainsbourg. L'album de Warehouse s'appelle « We Fucked a Flame into Being ». Donc, ça se traduit comment, Damien, toi qui as fait un peu d'anglais?
Est-ce bon. Que ce sera politiquement correct?
Non, on ne va pas le dire. Donc, on va écouter un titre, « Memory », nouvel album de Warehouse.
What's a crack without a spine? What is love that it ain't mine? What is luck without disorder? Was there something I could do to involve me into you and your chalk circle on me? Oh, come on, come on. How do I make you work alone? I expected to be refused. I'll accept it if you choose. Not prepared for what would happen. Oh, what a ceremonial second. And just because I'm not your man doesn't mean I understand all the things that you are after. I touched you once and I did it twice, but you can't recognize it as a man.
Memory, c'est le titre de la chanson Warehouse. C'est le nom du concept. Et le monsieur qui chante, c'est monsieur Martin Devolder. Le titre We Fucked a Flame into Being, titre de l'album, c'est en fait, Damien, une citation de l'amant de Lady Chatterley, de monsieur Lawrence. Donc, lorsque je vous disais tout à l'heure que Chant Libre, c'était une émission culturelle, voilà. Warehouse, vous l'aviez écouté, l'album? Non? Collé. Là, ils ont des devoirs à faire à la maison, et puis, évidemment. Si je vous dis rock, si je vous dis garage, vous me dites rock garage.
Ça coule de source.
Bravo. Alors, est-ce que vous avez une petite idée? Vous avez tous entendu le terme rock garage. Comment vous le définiriez, Joe?
C'est un rock qu'on peut entendre chez de jeunes compositeurs en fait qui commencent dans le garage de leurs parents, par exemple.
Très bien, Damien, tu as une petite idée de la chose?
Quelque chose de plus roots, voilà, qui sonne vraiment vrai, quoi, sans effet de studio.
Voilà, alors vous avez raison tous les deux. Bon. Le rock garage, c'est en fait un genre musical qui est né après 64 aux USA. À l'époque, les charts, les parades américains étaient envahis par les groupes britanniques, l'invasion britannique du rock, donc les Animals, les Stones, les Kings, tous ces groupes-là. Et du coup, dans les garages américains, il y a des tas de jeunes Américains qui ont essayé de refaire cette musique-là. Donc, inexpérience de la jeunesse, manque de moyens, et ils vont répéter où ? Ben, dans le garage des parents, donc du punk avant l'heure. Il paraît qu'il y a des milliers de groupes qui se sont formés à l'époque. Il y en a même qui ont sorti, c'était plus facile à l'époque, des singles, 45 tours, et qui ont eu des hits inattendus. Hits tellement inattendus qu'aujourd'hui, ce sont des pièces de collection qu'on recherche ou que l'on trouve dans les fameux coffrets Nuggets, les pépites, qui ont nourri d'ailleurs toute une génération d'autres groupes dans les années 80. Donc ce style, le rock garage, est né en 60 et quelques, mais il a également subi un coup de booster dans les années 80. Aujourd'hui, le rock garage, ça reste un style de rock qui n'est pas majoritaire, mais qui existe. Je pense aux Flesh Tones, Ty Segall dans les nouveaux groupes, les Foo Stones, Jerry Tarr, et puis il y en avait en France, je pense aux Dogs, on en parle souvent dans cette émission, etc. Voilà, tu as raison, Damien, ce rock qui s'embarrasse pas.
Bad aussi, d'ailleurs, réédite beaucoup de groupes garage français.
Tout à fait, il y en a des tas et des tas. Voilà, et donc pourquoi je voulais vous parler de ça aujourd'hui ? Eh bien, pour deux raisons. La première, chronologiquement, la parution chez l'excellent éditeur Le Mot et le Reste, je vais m'abonner hein, chez eux, d'un bouquin qui s'appelle Rock Garage, avec en sous-titre, ça c'est pour Laurent et la technique, en sous-titre Fuzz, Farfisa et Distorsion, parce que ça fait partie du son du Rock Garage, les pédales Fuzz, première pédale que l'on trouvait à l'époque. Le son de l'orgue Farfisa, c'est pas n'importe quoi. Bon, il y avait le Vox Continental aussi, mais... Et puis, la distorsion. Donc, tout est là. Et donc, ce bouquin de Christophe Bro est en fait une sélection d'albums de rock garage depuis les origines jusqu'à aujourd'hui, y compris en passant par la France. Je vois Too Much Class for the Neighborhood de nos amis les Dogs fait partie de la sélection. La deuxième raison pour laquelle je veux vous parler de rock garage aujourd'hui, même si vous en écoutez régulièrement dans Champ Libre, la deuxième raison, c'est que arrive sur nos platines dans les jours qui viennent une compilation double CD, ça s'appelle une anthologie, dont le titre est Bigger Than Life.
Plus gros que la vie.
Plus gros que la vie. Et c'est la compilation intégrale et même plus l'anthologie d'un chanteur-guitariste qui s'appelle Jack Lee. Jack Lee, c'était le guitariste d'un trio rock garage mythique qu'on appelait les Nerves, avec Paul Collins à la batterie. L'anthologie de Jack Lee sort chez je veux pas dire de conneries, mais sort très bientôt donc chez tous les bons disquaires. Ce trio-là, les Nerves, Peter Case à la guitare, Paul Collins à la batterie et Jack Lee au chant et à la guitare, ce trio a sorti un album 4 titres, pardon, un EP 4 titres, okay, et c'est tout. Et c'est un mythe depuis. Par la suite, ils ont essayé de faire carrière. Alors, Paul Collins a monté un groupe qui s'appelait The Beat. Paul Collins Beat, à ne pas confondre avec ceux qui faisaient du ska en Angleterre à la même époque. Voilà, ça n'a pas marché terriblement. Donc l'anthologie de Jack Lee arrive et ça va nous donner l'occasion de jeter une oreille sur ce son en provenance directe du garage. Le titre que je vous propose d'écouter, c'est le titre qui a rendu célèbre les Nerves. Le titre, c'est « Hanging on the Telephone ». C'est un titre que vous connaissez peut-être si vous êtes fan d'un groupe qui s'appelait Blondie, des Biarritz. C'est un titre qui a été repris des dizaines de fois par la suite. On écoute Jack Lee, c'est du rock garage, ça s'appelle « Hanging on the Telephone » et l'anthologie arrive.
Favori.
Le chouchou de Champ Libre sur les ondes de Couleur FM, c'est encore et toujours le dernier album des Warlocks, le groupe de psyché rock. Les Warlocks ont sorti cet album au mois de septembre-octobre. Il s'intitule Songs from the Pale Eclipse. Et après la chanson à boire de la semaine dernière, je vous propose un titre intitulé We Took All The Acid, je sais pas, c'est une histoire de batterie, d'acide.
Traduction.
To avoid the tolerance.
Vous êtes toujours sur Couleur FM et c'est Champ Libre. Et dans Champ Libre, chaque mois, Damien nous parle d'un album métal.
Alors de métal, pas forcément cette fois-ci, car chers auditeurs, mauvaise nouvelle, le noise rock se prostitue. Ou plutôt, il trouve ses nouveaux héros chez un groupe qui a sorti fin octobre son premier LP, Gold, les bien nommés Whores. Malgré la richesse de son titre, l'album démarre sur Playing Poor et sa basse écrasante, que l'on écoute tout de suite. Playing Poor, donc, suivi de Baby Teeth, véritable déluge de décibels aux chants scandés, presque rappés, qui virent parfois au hurlement. Les mauvaises langues diront qu'on pourrait qualifier comme ça chaque chanson de l'album, mais nous en ferons peu de cas ici. Si Participation Statement était une petite annonce, elle serait intitulée Riff dévastateur, recherche batterie électrique, et pour le coup, les deux se trouveraient. Mental Illness as Mating Ritual rappelle le stoner rock de Kios, avec cette même impression de rouler à toute berzingue dans le désert californien, sous acide, puisqu'on en parlait. Quant à Ghost Trash, c'est une impression d'étouffement qui nous submerge et qui semble définir le credo de Hawes, aucun temps mort. Charlie Chaplin Routine, avec ce riff mécanique inlassable et inlassant, sur lequel éclatent la fureur et la folie du chant, nous donne envie de nous ruer vers l'or, le fameux gold du titre. Of Course You Do, dont les 30 premières secondes constituent une moche part remarquable, semble n'avoir été créé que pour le pogo, et l'on déconseille aux plus craintifs de s'aventurer dans un concert de Halls qui annonce sur sa page Facebook le matériel nécessaire pour un passage en fosse, à savoir veste noire, pantalon noir, bottes de combat noires, t-shirt noir et 300 euros de monnaie pour l'enterrement. Et de t-shirt noir, il est aussi question dans la chanson « I see you are also wearing a black t-shirt ». Brûlot Sludge, la claque qui m'a fait découvrir l'album et dont je ne me suis toujours pas remis à l'heure actuelle. Bloody Like the Day You Were Born alterne gros bordel musical et voix, ici plus éraillé qu'énervé, alors que les deux se confondaient jusque-là. Et, last but not least, I've a Prepared Statement commence doucement, en comparaison du reste de l'album, hein, soyons clairs, avant de nous mettre KO, dernier uppercut d'un round qui a duré 35 minutes. Alors, comment résumer ce Gold, sinon en disant qu'il porte bien son nom ? S'il n'a certes rien de révolutionnaire, chaque morceau est une véritable pépite, et le tout sonne plus énervé que l'ensemble du punk rock actuel, représenté par un dernier Green Day, Revolution Radio, bien mou. Alors en bref, Halls est un très bon coup, et une affaire à suivre.
N'empêche que c'est pas toi qui vas être obligé de discuter de la musique qu'on peut ou ne peut pas passer sur les ondes aux heures de grande écoute. Hein, on nous avait quand même bien recommandé de passer du rock, oui, mais quand même, du rock pour oreilles chastes. Jo.
Je t'entends plus, tu me dis, je me suis pas remis du...
Tu as écouté de l'album, toi.
Voilà. Non, pas encore.
Donc dis-nous, Damien, il faut aussi porter un t-shirt noir ?
Oui, pourquoi pas ? Ce serait bien.
À défaut de le porter, on peut l'écouter.
Tout à fait. I see you are also wearing a black t-shirt.
Alors, Gold, c'est le titre de l'album. Il ne faut pas confondre avec une anthologie ou une réédition des albums de Gold.
Non.
Non. Gold, pas le groupe grenoblois, mais l'album de Wars, groupe metal donc.
Ouais, metal, noise rock, sludge, groupe voilà, violent quoi.
Générique qui siffle. Du coup, pour faire baisser la pression entre mes deux oreilles, je vais pas enlever le casque, mais je vais vous parler de littérature. Alors. Deux bouquins qui sont sortis récemment. Le dernier de Jonathan Coe, auteur anglais. chez Gallimard. Le roman s'intitule Numéro 11 et se veut une suite à son, peut-être pas premier, mais en tout cas deuxième roman, et c'est vieux, qui s'intitulait Testament à l'anglaise. Alors, Testament à l'anglaise, pour ceux qui aiment Coe, c'était un roman dans lequel il le flinguait gentiment, il décrivait la classe ouvrière anglaise et il flinguait à sa manière, avec beaucoup d'humour, les années Thatcher. Donc le numéro 11, nouveau roman, serait une suite de ce Testament à l'anglaise. Que se passe-t-il dans numéro 11? Je ne veux pas trop vous en dire, sinon ce ne serait plus la peine de lire le bouquin. Mais deux jeunes filles, Rachel et son amie Allison, elles ont 10 ans, sont très intriguées par la maison du numéro 11, Needless Alley, et en particulier par sa propriétaire, qu'elles finissent par surnommer la folle à l'oiseau. Toujours dans ce roman numéro 11, la mère d'Allison s'obstine à vouloir percer dans la chanson après avoir fait un hit il y a quelques années déjà. En attendant, elle travaille, de moins en moins, restrictions budgétaires obligent, dans la bibliothèque municipale de son village, jusqu'au jour où elle perd complètement son boulot, elle est au chômage, elle n'a plus de sous, et du coup elle trouve refuge dans le bus numéro 11 afin de profiter du chauffage et de la chaleur humaine. Donc elle tourne comme ça autour de la ville dans le numéro 11, jusqu'à ce qu'un appel inespéré lui propose de venir participer sur une île quelque part au paradis, participer à une émission de télé-réalité. Quelques années plus tard, Rachel, la gamine dont je parlais au tout début, travaille pour une richissime famille qui, en plein centre de Londres, à côté de Hyde Park, est en train de faire agrandir sa maison. Mais comme on ne peut plus agrandir à l'horizontale dans Londres, ils agrandissent à la verticale en creusant. Et ils font creuser un sous-sol de, je vous le donne en mille, 11 étages. Jusqu'à ce que les ouvriers approchent des profondeurs du niveau moins 11 et que des phénomènes bizarres commencent à se produire dans le quartier. Voilà, je vous en dis pas plus, mais ce roman est construit à partir de petits flashs là, autour de ces différents personnages, et on retrouve la satire sociale, politique, etc., en ayant l'air de rien, hein, tel que Jonathan Coe a l'habitude de le faire. Voilà, je vous conseille fortement ce Jonathan Coe numéro 11.
La question, c'est, est-ce que c'est son 11e tome?
Voilà. Oui, alors, tu as raison, Damien, de pointer le fait que tout tourne autour du numéro 11. Alors moi aussi, je me suis fait avoir au début, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose ou d'ésotérique ou de secret, je ne sais pas, kabbalistique. Et en fait, non. Plein d'humour, le roman en question. Deuxième roman qu'il faut absolument lire ce mois-ci, moi je suis encore sous le choc, alors, ça n'a rien à voir avec Jonathan Coe, même si c'est une chronique et une satire du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Je vous conseille de lire le dernier roman de Joyce Carol Oates, la grande auteure américaine. Ce roman s'appelle Sacrifice. Il est sorti chez, que je ne dise pas de bêtises, Philippe Press, accompagné également d'un second bouquin qui est en recueil de nouvelles. Chez Philippe Press, ils font ça, ils sortent deux Joyce Carol Oates à la fois, deux fois plus de ventes. Alors, parlons de Sacrifice. En 1987, dans un quartier noir délabré d'une ville du New Jersey, une mère cherche sa fille Sybilla, disparue depuis 3 jours. L'adolescente va être retrouvée par une voisine ligotée, le corps barbouillé d'excréments et d'injures racistes, dans les sous-sols d'une vieille usine abandonnée. Elle est emmenée aux urgences et là, elle accuse des flics blancs de l'avoir enlevée, battue et violée. Elle refuse également, et sa mère aussi, tous les soins, tous les examens, tous les interrogatoires de la police. parce que ce sont des sales cochons de flics nazis blancs. Ce terrible acte de violence va exacerber les tensions raciales frémissantes depuis des décennies aux États-Unis. Et un pasteur noir et son frère avocat, militant des droits civiques, deux personnages qui se verraient bien en héritier de Martin Luther King, vont récupérer l'affaire et l'exploiter, c'est le mot, au mieux de leurs intérêts. Ils vont être très rapidement imités par le prince noir, qui lui s'est proclamé pape ou leader du royaume de l'islam, plus redoutable encore que les deux évangélistes chrétiens dont je parlais précédemment. Et pour ces gens-là, la vérité n'importe guère. Ce qui compte, c'est ce qu'on va pouvoir transmettre à travers les médias. Et ce, même si les faits, le viol, l'agression et tout, se révèlent progressivement de plus en plus troubles. Voilà. Là aussi, je ne vous en dis pas plus. Le bouquin est composé de chapitres qui sont à chaque fois les points de vue des différents protagonistes du roman, de la police aux médias, en passant par la victime ou les membres de la famille. Et là aussi, comme dans ses romans précédents, Joyce Carol Oates nous propose de nous interroger sur les mécanismes du pouvoir, de l'oppression, de l'innocence et de la culpabilité. Vous savez, un enfant a disparu à la télé, un enfant a disparu, les parents sont en pleurs, il y a des marches blanches le dimanche, il y a des vilains étrangers qui rôdent dans le quartier, puis finalement on découvre, par exemple, c'est tout à fait fictif, que ce sont les parents qui ont tué la petite fille, qui l'ont enterrée. Voilà, ça me rappelle quelque chose.
En ce moment, petite actualité.
Joyce Carol Oates nous parle également de la vérité, du sensationnalisme. Moi, ce qui m'a extrêmement secoué, c'est que ça nous oblige, ce roman, à nous poser la question de ce qu'on nous montre. Ça nous oblige à nous dire, c'est pas parce que spontanément, épidermiquement, je vais pencher d'un côté que je suis du côté de la vérité ou pas. Voilà, donc ce roman est terrible pour ça. Moi, je pensais lire un roman qui parlait de racisme et d'agression anti-noire et tout. C'est vrai, ça existe. On en parle beaucoup depuis quelques mois. Et ben, c'est pas que ça. Donc là aussi, tu disais que le film, Joe, que tu présentais, je vais y aller doucement, le roman de Joyce Carol Oates, j'ai envie de dire, âme sensible, ne pas s'abstenir, mais y aller en
progressivement,
sachant
oui.
que
comme un
c'est risqué d'avoir les mains sales. Voilà pour les nouveautés en matière de bouquins, en tout cas ce que j'avais à vous proposer ce mois-ci. Tu as lu du Joyce Carol Oates?
Non, malheureusement, j'en ai pas encore lu. C'est une grande carence parce que c'est vrai qu'elle a sorti, elle a une œuvre foisonnante et les éditions de Chéret sont très très belles. Alors, ils en sortent beaucoup et dans le désordre qui plus est, mais c'est vrai que ça donne très envie d'en lire.
J'avais conseillé l'année dernière le précédent roman,
oui, tout
Carthage,
à fait. Oui, je me rappelle,
qui parlait des couloirs de la mort, etc.
Ouais.
Avec là aussi une disparition qui n'en était pas eue.
Mais pour le coup, ça a l'air d'être des sujets assez percutants à chaque fois et assez, qui invitent clairement à la réflexion et ça a l'air,
voilà.
Ça a l'air assez fort.
Ouais. Joyce Carol Oates, grand auteur américaine, qui a décrété récemment que Bob Dylan méritait grandement le prix.
Oui, absolument.
Bob Dylan qui, et on parle encore de littérature là, Bob Dylan qui vient de déclarer aujourd'hui, donc j'ai vu ça... sur les brèves donc à vérifier, qui vient de déclarer qu'il ne se rendrait pas à Stockholm pour empocher son prix Nobel parce qu'il avait des concerts à donner.
Mais qu'il était content quand même de l'avoir
reçu. Oui, il était content.
Voilà, il était content. Ouais, il était content. Ouais.
Et nous aussi, on est content. Voilà. Alors, on est content plus ou moins puisque Champ Libre est terminé encore une fois. Pas tout à fait parce qu'il nous reste un titre à écouter. En tout cas, merci Damien.
Merci
pour ta rubrique Metal. Merci Joe.
Bah, merci, merci.
Pour le Cinoche. Et je voudrais que... Merci Laurent pour la technique. Et je voudrais qu'on se sépare sur un titre, Demon Driven Man, du dernier album du groupe The Answer. L'album s'appelle Solace. Je crois que ça veut dire lumière en gaélique. Et The Answer, c'est un groupe mené par un Irlandais. C'est, pour une fois, c'est vrai. C'est leur sixième album. C'était un groupe plutôt hard, plutôt lourd, qui apparemment est en train de virer au, comment tu appelles, au folk rock hard, ou hard folk rock, je sais pas comment on dit, avec tout un tas d'influences celtiques. Il y a même un refrain entier en gaélique, des chœurs celtiques, des instruments traditionnels. Voilà, donc le grand écart entre la musique qu'ils produisaient avant et celle-ci. L'album s'appelle Solace, c'est The Answer et c'était Champ Libre. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bye. Bonne soirée.
Listen to your darkest secrets.